Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h pour le point actualité. Nawal El Amouchi. Emmanuel Macron l'a annoncé hier, la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence qu'elle co-présidera avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies à New York et qui doit aussi conduire, selon lui, à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays. Je vous laisse écouter le président français qui s'est exprimé hier.
On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc, dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clair pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs.
Le président français Emmanuel Macron. Il y a une nouvelle phase dans les relations entre la France et l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, pour qui il n'y a pas de retour à la normale sur l'application des accords de 1994. Et les relations diplomatiques se tendent entre l'Algérie et le Mali. La justice malienne a ouvert une information judiciaire pour acte de terrorisme après que le Mali a accusé l'Algérie d'avoir abattu un drone de son armée en territoire malien il y a quelques jours. La Turquie et Israël ont mené hier soir en Azerbaïdjan des discussions visant à prévenir le risque d'escalade en Syrie, sans que les deux pays n'envisagent pour l'heure de normaliser leurs relations. Autre volet en Turquie, deux tribunaux d'Istanbul ont ordonné la remise en liberté de 107 étudiants détenus pour avoir participé à des rassemblements interdits après l'arrestation le 19 mars d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. L'Union européenne a suspendu sa riposte aux droits de douane américains durant 90 jours pour donner une chance aux négociations, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ceci intervient après le revirement spectaculaire de Donald Trump qui a gelé les surtaxes appliquées à une soixantaine de pays, à l'exception de la Chine, qui est désormais isolée dans son bras de fer avec Washington. En France, maintenant en justice, l'enseignante Devael a été relaxée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Pontoise des poursuites pour harcèlement sur l'adolescente qui s'est suicidée en juin 2019. Les parents Devael, qui se sont dit révoltés par le verdict, vont faire appel, selon leur avocate. Et enfin, l'attaquant français Kylian Mbappé a fait saisir par le tribunal judiciaire de Paris à titre conservatoire 55 millions d'euros sur les comptes de son ancien club, le Paris Saint-Germain. Le footballeur madrilène va au prud'homme au titre des salaires et primes impayés qu'il réclame à son ancien club, ont annoncé ses avocats. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Place maintenant au tour d'horizon de l'actualité, notre magazine de décryptage et d'interview, suivi du sport.
Radio Orient, Focus.
Après avoir longtemps hésité, le président français Emmanuel Macron pourrait reconnaître l'État de Palestine en juin prochain. Je cite, « On doit aller vers une reconnaissance de l'État palestinien et donc dans les prochains mois, on ira. » C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État dans un entretien. Pourquoi à ce moment et avec quelles conditions? Quels pays, justement, c'est une question importante, l'ont déjà reconnu un État des lieux avec vous, Nawal El Amouchi?
Vous l'avez dit, une reconnaissance d'un État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence qui était déjà programmé et que la France co-présidera avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies à New York. Un événement qui doit conduire, selon Emmanuel Macron, à une dynamique collective, selon ses mots. Les appels à une solution à deux États palestiniens d'un côté et celui d'Israël se sont intensifiés depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre 2023. Cela permettra d'être clair pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région, a insisté le président français. Mais quel état des lieux dans le monde? Près de 150 150 pays reconnaissent déjà l'État palestinien. En mai 2024, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne ont franchi le pas, suivi par la Slovénie en juin. La solution à deux États reste toutefois rejetée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En 2020, les accords d'Abraham ont mené à la reconnaissance d'Israël par les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan ou encore le Maroc. L'Arabie saoudite qui avait aussi entamé des négociations pour un rapprochement avec Israël, mais qui les a suspendues depuis le début de la guerre à Gaza, conditionnant toute reconnaissance de la création d'un État palestinien. L'autorité palestinienne a aussitôt salué l'annonce d'Emmanuel Macron. Une reconnaissance par la France serait un pas dans la bonne direction, conforme à la défense des droits du peuple palestinien et à la solution de deux États, selon le ministre d'État aux Affaires étrangères. Israël n'a pas du tout eu la même réaction. Son ministre des Affaires étrangères parle, lui, d'une récompense pour le terrorisme en réponse à l'annonce du président français.
Interview.
Le président français qui parle d'une reconnaissance d'un État palestinien en juin. Réaction de Ronny Broman, fin connaisseur de la Palestine, directeur d'études à la Fondation MSF, l'ancien président de Médecins Sans Frontières, qui évoque une mesure qui irait dans le bon sens.
Je pense que c'est une mesure positive, mais peu significative. Les deux tiers des pays du monde ont déjà reconnu l'État de Palestine. Ça ne change d'ailleurs malheureusement pas grand-chose au sort effroyable des Palestiniens, notamment en ce moment. Il était temps que la France s'y mette. Cela a énervé les Israéliens, naturellement, notamment du fait qu'un pays membre permanent du Conseil de sécurité procède à cette reconnaissance, ce qui fait que leur occupation de la Palestine, ça n'est plus simplement l'occupation d'un territoire disputé, mais c'est une occupation tout court, au sens le plus simple et le plus révoltant du terme. Donc il y a malgré tout quelque chose de positif dans cette reconnaissance, mais on est tellement loin du compte face à la guerre génocidaire qui est en cours à Gaza, face au processus d'expulsion, d'épuration ethnique que connaît toute la Palestine occupée aujourd'hui. Cette reconnaissance, c'est bien peu de choses. Ce qu'on attendrait, ce sont des mesures de rétorsion prises à l'encontre du gouvernement israélien, des mesures concernant l'accord d'association qui permet à Israël d'être pratiquement membre de l'Union européenne du point de vue des exportations vers l'Union. Je rappelle que nous sommes le premier marché d'Israël et que donc les moyens de pression sont là.
Et l'accentuation de la colonisation en Cisjordanie rend-elle plus difficile la création de cet État ?
Oui, alors ça c'est l'autre aspect de cette initiative. On propose, on reconnaît un État qui est un État virtuel à un moment où son actualité est pratiquement hors-jeu. À un moment où le territoire palestinien a été tellement mité, tellement déformé, tellement défiguré par la colonisation, que la création d'un État palestinien réel par-dessus tout cela semble quasiment impossible. Mais en tout cas, je pense que c'est malgré tout positif, même si on ne croit pas que deux États, un juif et un palestinien, puissent être créés sur cette terre minuscule, et que, en tout cas, ça va plutôt vers dans le sens d'une reconnaissance d'une égalité de droit pour tous les habitants entre le fleuve Jourdain et la Méditerranée, comme il est convenu de dire, c'est-à-dire une égalité de tous sur le territoire de la Palestine mandataire. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important à rappeler, et que la reconnaissance de la Palestine permet de faire à nouveau émerger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les amis d'Israël ou les pseudo-amis d'Israël, ceux qui aident d'ailleurs Israël à se suicider d'une certaine manière, sont vent debout contre cette reconnaissance, et on peut s'attendre à avoir toutes sortes de réactions hostiles en France de la part de gens qui se disent, qui se présentent comme des amis d'Israël.
Des propos recueillis par François-Xavier de Calonne.
Point Maghreb.
Il y a une nouvelle phase dans les relations entre la France et l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi matin le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, pour qui il n'y a pas de retour à la normale sur l'application des accords de 1994. Il s'est exprimé, je vous propose de l'écouter.
Dans le droit international, il faut une réciprocité. Donc j'ai assumé de poser ce rapport de force qui a été consacré lorsque le Premier ministre nous avait réunis en comité interministériel. On a parlé de riposte graduée, Voilà. Il y a maintenant une nouvelle phase, puisque les deux présidents se sont parlé, Tebboune et le président Macron. François-Noël Barrot, patron de la diplomatie française, est allé à Alger le week-end prochain. Il y aura d'autres rencontres le prochain week-end. Donc, qui est à la fois une fermeté pour le ministre de l'Intérieur et le dialogue pour la diplomatie, c'est parfaitement normal. Simplement, moi, je jugerai au résultat. Je jugerai au résultat. Et les Français aussi. Donc, où il y a des résultats, et alors la riposte gratuite s'éteint, ou alors il n'y a pas de résultats, et ce sera impossible de ne rien faire. Les choses sont très claires. La libération de Boualem Sansal, mais pour moi, surtout, l'application stricte des accords de 94. Quand vous avez un individu algérien, documenté, papier, etc., il n'y a pas besoin de laisser passer consulaire. Il n'y a pas besoin de laisser passer consulaire. Et pour l'instant, je vous confirme qu'il n'y a pas du tout de retour à la normale. Pas du tout.
C'était le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Radio Orient, focus.
Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, critique vivement les nouvelles taxes imposées par Donald Trump sur les territoires ultramarins français. C'est une conséquence importante, une politique qu'il juge incohérente et dangereuse pour ces régions. Avec vous, les précisions, Salma Dakhlaoui.
Manuel Valls, ministre des Outre-mer, s'est exprimé récemment sur les nouvelles mesures de droits de douane annoncées par Donald Trump. Depuis son bureau, il a critiqué une politique qu'il juge incohérente et improvisée. Selon lui, ces taxes varient fortement selon les territoires ultramarins. 10% pour les Antilles et la Guyane, 37% à La Réunion et jusqu'à 50% à Saint-Pierre et Miquelon. Une situation qu'il qualifie de grave, tout en ironisant sur des territoires où seuls des pingouins seraient concernés. Le ministre appelle à la patience face à ce qu'il considère comme une logique de guerre commerciale menée par le président américain. Il assure que la France et l'Union européenne travaillent à des ripostes coordonnées pour éviter une double inflation dans les territoires d'outre-mer. Manuel Valls insiste sur l'importance d'une réponse européenne unifiée et ciblée, tout en invitant les ultramarins à garder leur sang-froid et à se préparer au choc économique.
Interview.
10 associations attaquent l'État pour dénoncer les dysfonctionnements de la plateforme de demande de titre de séjour, des dysfonctionnements qui, pour ces associations, entravent l'accès des personnes étrangères au marché du travail et aggravent leur précarisation. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de solidarité.
Les dysfonctionnements constatés, c'est que aujourd'hui, des personnes, par exemple, sur les renouvellements de leur titre de séjour, déposent une demande et ne reçoivent pas de réponse et perdent leur titre de séjour parce que les délais pour renouveler leur titre de séjour sont beaucoup plus importants que la date à laquelle ils devraient recevoir un nouveau titre de séjour. Donc en fait, on est dans une plateforme qui dysfonctionne, c'est-à-dire qui met énormément de temps à traiter les demandes, qu'elles soient du point de vue du renouvellement ou voire même des premières demandes de titre de séjour. Nous, ce qu'on évalue, c'est que quand vous déposez une première demande de titre de séjour, il y a un délai entre 12 et 18 mois avant d'avoir une première réponse à la demande que vous avez déposée. Et donc, que ce soit sur le renouvellement ou sur l'accès au titre de séjour, en fait, pendant ce temps-là, vous n'avez pas d'interlocuteur. Donc, vous ne savez pas comment débloquer votre situation. Vous êtes face, en fait, à un mur numérique.
Ça, c'est l'une des conséquences de la dématérialisation.
Exactement. Disons que la conséquence, c'est de ne pas pouvoir avoir d'interlocuteur physique, de comprendre qu'est-ce qui bloque dans le dossier. Et là, le double problème qu'on a, c'est que, la plateforme dysfonctionne, puisqu'elle ne tient pas des délais et que pour nous, en fait, on est aujourd'hui obligé de saisir le Conseil d'État, tant le nombre de situations est important et crée vraiment des énormes impacts sur les personnes par rapport à l'accès à leurs droits, sur le fait que ça interrompt brutalement leur parcours d'insertion, ce que ça prive de plus en plus d'employeurs de leurs collaborateurs ou collaboratrices, et que forcément ça surcharge énormément le travail des associations et puis des services de l'État.
Des conséquences aussi sur le logement.
Des conséquences sur l'emploi, sur le logement. En fait, on a fait une enquête il y a quelques semaines et on voyait qu'il y avait plus de 50% des personnes qui répondaient à cette enquête qui disaient que les personnes avaient perdu leurs droits à France Travail, que 58% avaient perdu leurs droits à la caisse d'allocation familiale. Donc en fait, on a toute une chaîne en cascade, si vous voulez, de fabrication, de précarité pour un certain nombre de personnes qui sont insérées, vous voyez, qui sont dans leur logement, qui travaillent, qui s'occupent de leur famille, etc., et qui se retrouvent totalement démunis à cause d'un dysfonctionnement administratif.
Des propos recueillis par François-Xavier de Calonne.
Radio Orient Sport.
Et 1, et 2, et 3 à 1, en Ligue des Champions, opération réussite pour les Parisiens qui ont remporté hier leur quart de finale aller face à Aston Villa. Malgré une domination, les Parisiens ont encaissé un but sur la première occasion des Anglais. Le Paris Saint-Germain a su réagir avec Désir Doué qui a inscrit une superbe frappe sous la barre, en dehors de la surface. Puis un exploit individuel de Kvaratskhelia et de Nuno Mendes ont fini le travail. Le job a été fait à la maison en attendant de se déplacer à Birmingham. De l'autre côté, Barcelone s'est joué de Dortmund. C'est qu'à un 4-0 que les Catalans ont infligé au club allemand. Contre son ancien club, Robert Lewandowski n'a pas fait de cadeau. Le Polonais inscrit un doublé. Le Barça a infligé un déficit conséquent que va devoir rattraper le Borussia à la maison mardi prochain. Quart de finale de la Ligue des Champions CAF, cette fois-ci match nul entre les Orlando Pirates et Alger. Le club algérien éliminé de la compétition. Ce soir, on passe de la Ligue des Champions à la Ligue Europa. Lyon peut essayer de créer l'exploit face à Manchester United. Coup d'envoi à 21h. Les Red Devils ne sont plus qu'à la 13e position de la Première Ligue et sont également sortis très tôt des deux coupes nationales. Il n'y a donc plus que l'Europa League pour sauver leur saison. Énorme journée de basket ce soir, c'est la dernière journée de l'Euroleague. Le top 10 peut encore être bouleversé. L'occasion de revenir sur les enjeux de cette journée avec Nils Onimus, commentateur chez Squeak TV.
Il y a beaucoup d'enjeux pour les clubs français. Bon, déjà, ils sont tous les deux assurés de faire l'après-saison, que ce soit Monaco, les play-offs ou le play-in, ou Paris, pareil. Assurés de continuer l'aventure, au moins un petit peu. Monaco, assez simple, a besoin d'une victoire face à l'ASVEL dans la dernière journée pour s'assurer la quatrième place et être sûr de recevoir, d'avoir l'avantage du terrain sur la série de play-offs à venir. Et c'est risqué aussi parce qu'en cas de défaite, ils pourraient chuter jusqu'à la 7e place. Et puis Paris, alors, peut encore terminer 6e et ainsi se qualifier directement pour les play-offs. Mais il faudrait un enchaînement de miracles pour arriver à cette 6e place. Mais Paris peut grappiller quelques spots, aller chercher une 9e, 8e, voire 7e place.
L'ASVEL est actuellement hors course. Quel bilan peut-on tirer de cette saison de l'ASVEL ?
Elle est réussie, elle est très réussie cette saison, il y a beaucoup de motifs de satisfaction, ils sont à 13 victoires, c'est leur record depuis qu'ils sont revenus en Euroleague, d'abord avec une wildcard et ensuite avec la licence A. Ils peuvent donc battre ce record ce soir s'ils gagnent contre Monaco.
Franchement, c'est difficile à dire qui va être champion cette année.
Il y a la malédiction du premier, plane toujours, jamais depuis le format établi, le premier n'a remporté le trophée. Lors du Final Four, ouais, impossible de deviner.
Merci Nils Onimus qui commentera le choc entre Paris et Monaco sur Squeak. Ce sera à 20h. Place au tennis, nous sommes actuellement en plein Master 1000 de Monte Carlo. Arthur Fils, le phénomène français du tennis, s'est qualifié hier contre Flavio Cobolli de 7-0. Ce matin, le français s'est une nouvelle fois qualifié pour les quarts d'un Master 1000 en battant le russe Rublev de 7-0. En revanche, Richard Gasquet dit adieu au Rocher après s'être fait éliminer au deuxième tour. Le français a disputé sa dernière bataille à Monte Carlo. Une anecdote du jour rugby, il est une légende du rugby français. Il a disputé 62 matchs avec l'équipe de France. Il a marqué les esprits, mais lui ne se souvient d'aucun de ces matchs. Sébastien Chabal s'est confié hier dans l'émission Legend. Parmi les nombreux sujets évoqués, l'ancien international français est revenu sur les problèmes de mémoire qu'il a subis depuis la fin de sa carrière en 2014. Le troisième ligne a confié qu'il n'y a plus aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby qu'il a joué. Les problèmes de commotion cérébrale est récurrent dans le rugby. Malgré une carrière riche en souvenirs, la légende française a tout oublié. En tout cas, les fans de rugby, eux, l'ont bien gravé en mémoire. C'était Arthur Claude Savoie pour votre émission sport. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.
C'était Radio Orient Sport.